C'est pas d'union dont on a besoin. C'est de clarté et de mobilisation populaire. Vous ne pouvez pas mobiliser si vous donnez l'impression que vous êtes un menteur qui va ensuite arranger ses carabistouilles dans un coin avec ses copains des autres partis. Je ne suis pas leur copain. Que cela soit dit une bonne fois pour toutes.
Ça, c'était du Jean-Luc Mélenchon dans le texte et je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous l'avez reconnu, bien entendu. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle, la gauche est redevenue l'un des grands sujets français. L'effondrement de la gauche, ses divisions, sa possible recomposition, l'existence ou non d'un bloc de gauche, le rapport de cette nouvelle gauche avec ce qu'on avait coutume d'appeler en France la gauche de gouvernement. Libération est née deux fois, figurez-vous. La première dans l'opposition sous la droite pompidolienne. La seconde en 1981, au moment où François Mitterrand devenait président. Alors Libé et la gauche de gouvernement, c'est une histoire qui s'entremêle. Qu'en sera-t-il désormais ?
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celle de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir.
Et ça, c'était du Emmanuel Macron dans le texte. Ai-je besoin de vous le préciser ? Bonjour, Dov Alphonse.
Bonjour.
Le patron de Libération, soyez le bienvenu ce matin sur France Inter. Libération et la gauche, au moment où la gauche, la recomposition de la gauche, évidemment, il y a à court terme les législatives, mais à long terme, dans le quinquennat qui suit, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Et c'est pour ça que je vous ai invité ce matin. On va commencer par ce qu'on vient d'entendre, par Emmanuel Macron, par le vote qui a eu lieu hier en France. Libération a appelé avec beaucoup de vigueur à faire barrage contre l'extrême droite. Je rappelle votre une de samedi, rouge sang, contre l'extrême droite, votons. Mais ça n'était plus, faites ce que vous voulez, mais votez Emmanuel Macron. Ça, c'était la une de 2017 qui vous a collé à la peau et qui a plutôt fait du tort au journal.
Je pense qu'elle, d'abord, les unes se font très rapidement. Ça fait partie du folklore de Libé que quelquefois ça se passe très bien et quelquefois non. Je pense que cette nuit-là, personne n'a vu que c'était d'abord un impératif, une injonction. Ce n'était pas votons comme hier, comme
cette
samedi.
Cette nuit-là, en 2017.
En 2017, c'était donc faites ce que vous voulez, mais votez. Donc c'est un ordre. Après, je pense que pour nos lecteurs, il était essentiel de voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Mmh. Alors que cette injonction intemporelle, qui n'avait pas de date, qui n'avait pas de précision, nous a effectivement fait du tort, comme elle était souvent ramenée, comme une sorte de moustique autour de l'oreille. Mais je pense que les positions du journal n'étaient pas du tout différentes de ce qu'elles sont.
C'est ça. Mais ça a jeté une espèce de suspicion, une espèce de doute, d'adhésion, de libération à la Macronie, en fait, au démarrage de la Macronie.
C'est très possible.
C'est ça. Vous avez, dans l'entre-deux-tours, multiplié, Dov Alphonse, les analyses et les décodages pour placer le programme de Marine Le Pen sous un jour, on va dire, des plus crus possibles. Deux prix Nobel d'économie en une, par exemple. Pour convaincre qui ? Vous vous adressez à qui ? À des lecteurs déjà convaincus ?
Alors déjà, il y a près de deux ans, nous avions commencé à montrer que Marine Le Pen ne faisait que se fortifier dans ses provinces et dans ses ruralités et dans sa Corse et
vous
dans ses Antilles.
Vous voulez dire que vous n'avez pas attendu l'entre-deux-tours ?
Pas du tout. Et il y a un an déjà, nous avions écrit et prouvé que Zemmour, c'est très joli, ça fait vendre apparemment, mais en fait, le vrai danger vient de Marine Le Pen, qui continue de persuader, et donc ce petit bruit de fond de Zemmour bien sûr empoisonne la vie publique française, mais n'est pas important électoralement. Et donc on s'était concentré sur les salaires de Marine Le Pen, ses finances... Maintenant, on arrive à l'entre-deux-tours et comme l'avait dit André Gide, nous l'avons déjà écrit tout ça, mais malheureusement, personne ne nous écoutait et donc il faut bien le dire encore une fois. Et on en était là. On avait l'impression que certains de nos lecteurs, donc de gauche normalement, savaient, oui, Marine Le Pen c'est pas très bien, mais enfin elle est pas fasciste, donc je reste chez moi.
Ah, c'est
ça. Je ne fais pas, je vais m'abstenir, et tant pis. Et c'est ça. Là-dedans, il a fallu,
donc vous vous
pense,
adressiez
rappeler,
non pas à des gens tentés par l'extrême droite, mais vous vous adressiez...
Je crois qu'on en a très peu, donc on est resté quand même sur notre électorat. C'est vrai qu'il grandit, mais pas à ce point-là.
Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et je peux citer votre édito de ce week-end, Dove Alphon, un grand morceau de plume, je dirais, où vous avez parlé des indolents reçus dans l'enfer de Dante, dans les cris, les pleurs et les flammes, errant derrière une bannière vide.
Oui, c'est le poète qui nous le dit, en fait. Ceux qui n'ont pas fait le choix, ceux qui, à un moment critique où il fallait choisir entre le diable ou non, ont décidé de ne pas choisir, sont dans le vestibule de l'enfer, qui est le pire cercle possible. Ils ne sont même pas reçus, Lucifer ne veut pas d'eux, et ils sont condamnés par le poète à courir en rond, poursuivis par des guêpes, après une bannière vide. Et que représente l'abstention ? C'est une bannière vide. Mmh. Et donc il était important de rappeler que nous avons des désaccords complets avec Emmanuel Macron sur des tas de sujets. Nous les avons écrits des dizaines de fois. Mais dans un moment pareil, il faut savoir choisir. Et savoir choisir, il faut savoir choisir la démocratie. Si on est un journal,
alors,
c'est aussi simple que cela.
Les désaccords, n'est-ce pas ce qu'il y a de mieux pour vendre un journal ? Finalement, la réélection. Là, je ne vous parle pas de vos convictions, je ne parle pas de vos valeurs, je ne parle pas de la rédaction de Libération. Je parle de la réélection d'Emmanuel Macron. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de Libération ?
D'après le New York Times, le mieux pour l'avenir de Libération, ça aurait été l'élection de Marine Le Pen, puisque depuis Donald Trump, ils ont quadruplé leurs ventes. Est très possible que se placer en journal d'opposition à des valeurs extrêmes aurait mieux vendu.
Alors, donc, aurait fait choix, mieux vendre également probablement Le Monde, aurait
probablement
fait mieux Libé, Libé, l'Obs, l'Express. Donc en fait, vous auriez
d'accord.
été très nombreux à vous opposer aux valeurs de Marine Le Pen.
Je suis d'accord, mais je pense que d'une certaine manière, ce qui est important dans un journal, c'est d'être d'abord inattendu et après d'être intéressant. Et pour être intéressant, il nous faut un débat qui est un débat d'idées. Et je pense que face à cette gauche décomposée, ce n'est pas seulement Emmanuel Macron. Est-il de gauche ? Est-il de centre droit ? Qu'est-ce qu'il est ? Je pense que toute la gauche est dans des positions qui sont très différentes, en fait. Et ce ne sont plus des nuances. On n'est pas dans des nuances, là. Et donc, ça donne des débats. On a fait des interviews pendant ce premier tour avec chacun. Des grands leaders de la gauche, donc de Fabien Roussel jusqu'à Mélenchon. Et je ne révélerai pas à l'antenne les chiffres de vente au numéro, quelle est la couverture, quel est le leader de gauche qui a le mieux vendu.
Dites-nous, c'est extrêmement intéressant. Dites-nous. Mais
je dirais que l'intérêt porté à Christiane Taubira pourrait en surprendre plus d'un.
C'est
comme,
vrai.
En fin de compte, elle n'a pas mobilisée, elle n'a pas convaincu, mais on est toujours très intrigué comme lecteur par ce qu'elle a à dire. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais
ou est-ce que c'est une gauche qui achète des journaux ?
Je pense que c'est une gauche qui, en elle-même, se demande où elle va. Ce qui est vraisemblable vu les chiffres, vu cette dégringolade. Donc, qui sommes-nous ? Pour qui, en fait, est-ce que nous militons ? Pourquoi ? Et c'est un peu ce que nous aimerions qu'ils retrouvent dans Libération.
Alors, qui êtes-vous Libération et pour qui militez-vous Libération ? Votre position vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon m'intrigue et c'est pour ça que je vous ai invité, Dove Alphon. Jamais Libération n'a appelé pendant cette campagne à faire l'union de la gauche derrière la France insoumise. Pourquoi ?
Alors, j'y ai pensé. Il y a eu au moins 3 débats au comité de rédaction autour de cette question. Je pense que notre une « Soyez à droite, votez à gauche » était un message tout de même dans ce
C'était
sens.
C'était avant le premier tour.
C'était juste avant le premier tour. Mais nous n'avons jamais fait appeler à voter pour un candidat avant la veille du premier tour. Et ça se comprend, vu que Libération sert des intérêts de gauche qui peuvent être vraiment assez contradictoires. Mmh. Et donc jamais le journal n'a appelé à voter pour un candidat au premier tour, seulement au deuxième, et c'est ce que nous avons fait.
Ce qui est intéressant, c'est que si je reprends votre une du 21 mars, le printemps Mélenchon, magnifique photo en une, Mélenchon porté au nu.
Toutes nos photos sont magnifiques.
Oui, c'est vrai qu'elles sont très belles, vos unes, mais Mélenchon porté au nu, place de la République, 100 000 drapeaux autour de lui.
Oui.
Et donc je me dis, voilà Libé qui fonce derrière et qui porte au nu Mélenchon. Et votre édito, Dove Alphon, ouf, Mélenchon qui n'a pas fait son mea culpa. Mélenchon qui ne s'explique pas sur les soupçons d'antisémitisme. Mélenchon qui ne s'explique pas sur sa poutinophilie. Pardonnez-moi. Un édito extrêmement dur, extrêmement critique.
Oh, je l'ai pas vu comme ça, mais quelquefois on est pris là-dedans.
Oui.
Mais oui, le rôle d'un journal est certainement d'être très froid sur ce qui se passe. Le moment est exaltant,
oui.
Mais le journal se place toujours dans une position, je dirais, nous avons 1000 ans et nous regardons ce qui se passe ce soir. C'est toujours ça.
D'ailleurs, vous avez écrit, il a évité ce 20 mars, hein, il a évité les sujets délicats, ce qui pourrait lui coûter sa qualification au second tour.
Oui, je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Il était proche et donc il lui suffirait de convaincre encore 1, 2, 3% autour de Jadot, de Hidalgo, de candidats de gauche, disons, qui sont peut-être plus rassurants pour beaucoup de nos lecteurs. Et ce fut une erreur à mon sens, mais d'un autre côté, ce n'est pas à moi de donner des conseils aux politiques. J'observe seulement quand ils ne font pas leur travail.
Alors après, on pourrait dire que Libération, d'un point de vue complètement tactique, hein, commercial, aurait eu un boulevard, puisque on voit bien évidemment l'Humanité ancrée du côté du PCF qui avait pour la première fois depuis longtemps un candidat assez convaincant, Fabien Roussel. On voit bien Le Monde qui est centriste, on voit bien l'Obs qui est assez écolo-féministe. Donc en réalité, vous auriez très bien pu avoir
On ne réfléchit pas du tout comme ça. C'est un peu notre défaut, mais c'est pas du tout notre pensée. On n'a jamais eu, hein, dans l'histoire du journal. C'est pas moi qui arrive avec mes idées de journaliste. On l'a jamais eu, on l'a jamais fait. Et en plus,
la rédaction est très fracturée.
La rédaction est exactement le reflet de cette décomposition de la gauche. Et donc, je ne dirais pas qu'elle est fracturée parce que l'atmosphère est formidable et on rigole beaucoup. Mais forcément, oui. Je pense qu'on reflète exactement les résultats.
Ouais.
Donc oui, il y avait bien sûr des partisans de tout et dans les comités de rédaction, ça peut chauffer, c'est sûr.
Je vous fais écouter Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos, qui était au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand il y a quelques minutes.
Eh bien, on sent bien que pour la première fois peut-être, l'idée d'un troisième tour, elle a une réalité. Pourquoi ? À nouveau, parce que nous avons trois France et non pas deux. Et du coup, le retour de Jean-Luc Mélenchon, le retour d'un bloc de gauche qui a été un peu sous-estimé au premier tour. Quand vous regardez ce que nous mesurions et la réalité, le bloc de gauche est quand
même
un
peu
plus élevé. Je fais un mini mea culpa, parce que globalement, ça a quand même plutôt pas mal fonctionné.
Parlons-en justement d'Ove Alphon, patron de Libération, des sondages. Ouest-France a attaqué cette campagne en disant « Nous arrêtons les sondages, nous revenons à notre métier que nous aimons, labourer le terrain et être au plus près justement des Bretons et des Bretonnes, des Normands et des Normandes. » Le Parisien a fait le trajet inverse. Le Parisien avait renoncé au sondage en 2017 et là il y est revenu plein pot. Le Monde en a publié plus que jamais. Le Figaro a fait monter un nouvel institut, Cluster 17, en disant voilà un institut qui dépasse les clivages gauche-droite. Comment vous êtes-vous situé ?
Nous avons décidé de faire des sondages avec Via Voice qui ne sont pas des sondages d'électeurs. Qui sont des sondages d'opinion. Donc, pensez-vous que les thèmes de l'insécurité et du pouvoir d'achat sont importants, etc. Et je pense que nous avons fait notre travail là-dedans, du moins que c'était plus intéressant que des variations de 2 à 3% ici et là. Et ça montrait bien, de toute façon, que la gauche a eu tort de ne pas revenir à ces thèmes de base, quand même. Qu'est-ce que le pouvoir d'achat, le manque de concurrence entre les grands groupes, les cartels. On n'a pas fait ce travail-là, alors que nos sondages montraient qu'il y avait une grande envie de ça, que l'insécurité était là, mais pas dominante, comme on l'a vu en fin de compte.
Alors revenons sur Éric Zemmour, sur le phénomène Éric Zemmour, sur la campagne d'Éric Zemmour. Pensez-vous, Dove Alphon, qu'il y ait eu une bulle médiatique, puisque vous faites partie des médias, moi aussi. Les médias ont-ils nourri les sondages d'Éric sur Éric Zemmour, qui eux-mêmes auraient nourri l'affolement médiatique.
Ben, c'est certainement une sorte de dynamique qui s'est créée.
Oui.
J'en parle d'autant plus à l'aise que je ne sens pas du tout qu'on était là-dedans, comme au contraire, on a fait, je crois, 5-1 sur Marine Le Pen, exactement dans cette période de Zemmour, de Zemmour love un peu partout. Je pense que c'est un ancien polémiste, journaliste, je pense qu'il ne reviendra pas à notre métier, donc je dis un ancien. C'est un ancien journaliste qui savait appuyer sur les boutons qui marchaient, que les médias ont joué à ce jeu sciemment en comprenant très bien que ça leur donnait quelque chose.
Donc il y a un vrai bilan médiatique à tirer de cette campagne.
Je pense que pour les chaînes d'infos en continu, Et pas toutes, comme toutes n'ont pas fait ce choix. Je pense qu'il y a un vrai bilan qui d'ailleurs va se refléter dans les chiffres aussi, dans les chiffres d'audience, parce que ce n'est pas seulement la moralité là qui est en jeu, ce n'est pas seulement votre idéologie comme journaliste, c'est le fait qu'en fin de compte, ces phénomènes s'estompent et soudain, les téléspectateurs se disent c'était vraiment ennuyeux, ça je vais chercher autre chose. C'est très dangereux de jouer à ce jeu-là.
Parlons de Libération. Libération a plutôt vraiment bénéficié à la fois de votre arrivée, des changements que vous avez impulsés au niveau du journal. Vous avez recruté beaucoup de journalistes, le contenu s'est enrichi, le site marche beaucoup mieux. Ça se voit, les chiffres montent.
Oui.
Mais il vous manque de l'argent pour la suite.
C'est-à-dire que il est certain d'abord que face à une progression remarquable, pour ne pas dire explosion, en nombre d'abonnés, nous avons aussi connu nos attentes en termes
vous
de publicité
n'ont pas... Vous avez
presque
triplé le nombre d'abonnés
oui,
en deux
oui,
ans.
Oui, ouais. Oui, oui. Et par contre, effectivement, la publicité ne suit pas. Et donc, notre bilan n'est pas ce qu'il devait être. Maintenant, avec le Covid, la guerre en Ukraine et la campagne politique, comme les publicitaires n'aiment pas du tout être dans des articles pareils, c'était un peu évident. Nous allons, grâce à un plan stratégique mis en place par Denis Oliven, directeur général, nous allons chercher une autre moyen d'avoir dans le fonds de dotation.
10 millions, il cherche 10 millions.
Il cherche 10 millions, bon, je ne sais pas si un des auditeurs a ça pour le fonds de dotation de la presse indépendante de Libération, nous serions très heureux.
Que vous donniez 10 millions. Hein
oui,
écoutez
voilà,
bien.
Je pense qu'il va revenir tout d'abord au fond même, donc à Patrick Drahi,
qui est votre
de SFR, qui est
ancien propriétaire.
Ancien propriétaire et qui est le principal donateur à l'origine de ce fonds. Donc je pense qu'on va d'abord le solliciter. D'ailleurs, je le fais, Patrick, si tu m'entends. Mais autrement, voilà, il est essentiel, comme nous continuons à sortir beaucoup d'argent sur nos efforts journalistiques, il est essentiel d'avoir une rédaction qui n'a pas à se demander est-ce qu'on prend un billet d'avion pour l'Ukraine par la Turquie ou directement. C'est essentiel. Et donc, oui, absolument.
Un dernier mot d'Ove Alphon. Vous allez entendre la sœur d'Olivier Dubois. Olivier Dubois, un journaliste pigiste qui écrit pour Libération, enlevé maintenant depuis plus d'un an.
En fait, s'il m'était possible de parler au chef d'État actuel ou le futur, je leur demanderais quel est leur rapport au temps. Je leur dirais que pour Olivier, chaque jour, chaque heure, chaque minute compte. Et qu'un sprint doit s'engager. Olivier ne peut plus attendre d'être libéré. Il faut absolument faire quelque chose pour notre concitoyen, notre compatriote, qui est en situation d'urgence à l'étranger.
Enlevé par un groupe armé, détenu, il a été enlevé au nord du Mali, on ne sait pas où il est détenu. La famille pointe l'inaction des autorités et surtout le silence extrêmement écrasant, pesant et très angoissant. Des autorités sur ce dossier.
Alors nous suivons bien sûr ces efforts. Nous avons fait énormément d'efforts dans ce sens, en publication, mais aussi en contact. J'ai personnellement rencontré des gens, ministère des Affaires étrangères et autres, pour essayer de faire avancer ce dossier. Je suis plutôt d'accord qu'il y a un silence assourdissant autour d'un journaliste retenu en otage. C'est le seul otage français, à ma connaissance. Donc, il est temps de se bouger. Je crois que j'ai l'impression que ça bouge un peu. Mais voilà, il y a eu énormément de faux espoirs. Et donc, je suis tout à fait d'accord. C'est le moment.
La famille a demandé l'ouverture d'une information judiciaire, la désignation d'un juge indépendant. Vous pensez que c'était la bonne chose à faire?
Moi, je n'ai pas de conseil à donner à une famille dans un état pareil et dans une situation que nous comprenons tous qu'elle est invivable. Et donc, j'applaudis quiconque voudra bien prendre ses responsabilités et trouver une solution, enfin.
Merci beaucoup, Dove Alphon. Merci qui? C'est la une de Libération aujourd'hui avec une photo d'Emmanuel Macron en une. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'Instant M sur France Inter. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sénat de Villers. Est-ce que vous êtes une amatrice de miel?
Oui.
Eh bien, ce matin, nous célébrons les bienfaits du miel. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Du miel sur du yaourt
oh là
grec.
Oulala, avec des noix.
Voilà, exactement. Allez, bonne émission.
Merci.
Abri Sud.
Le bonheur, c'est quand je suis sous ma pergola Abri Sud. Grâce à elle, ma pièce préférée, c'est mon jardin. Toit ouvert ou toit fermé, je profite de la vie en extérieur toute l'année. Voilà, c'est ça mon bonheur à Brissud.
À Brissud.
Le bonheur plein sud.
Il est 10h et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Inter.